Bon dimanche, frères et sœurs. Vous allez bien? Ça va? C'est bien, gloire à Dieu. Nous aussi, ça va bien. Et nous nous préparons pour le 14 juillet. Nous espérons que ce sont les infirmières qui vont défiler aussi sur les Champs-Élysées. Elles mériteraient. Hein. On va lire dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je vais vous enseigner quelque chose ce matin qui va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est le fruit de mes expériences spirituelles et je pense que c'est bien de partager avec les gens qui nous écoutent. Nous avons de plus en plus de personnes qui nous écoutent sur révélationbible.fr et aussi sur Facebook Révélation Bible. Et je veux partager le plus possible les choses que j'ai apprises pendant toutes ces années et qui ont fait que mon ministère a été béni et que des milliers de personnes ont pu rencontrer Jésus, être guéries, être délivrées de toutes sortes de démons. Et aussi que plusieurs ont pu prospérer parce qu'ils ont écouté ce que je leur ai enseigné et ont mis en pratique ce que je leur ai enseigné. Alors la première chose, quand on est chrétien, il faut absolument savoir que le mot Satan signifie adversaire et que vous ne devez pas admettre d'adversaire. N'admettez pas d'adversaire dans votre vie. Votre adversaire est déjà vaincu à la croix. Il le sait. Il sait que je le sais. Il sait que vous le savez. Et au nom de Jésus, au nom de puissance de Jésus, il doit absolument fléchir les genoux. Il le sait. C'est ça être spirituel, c'est d'avoir une attitude et des actes face à l'adversaire que nous avons vaincu. Si vous avez la moindre peur, eh bien c'est vous qui êtes vaincu. N'admettez pas d'adversaire. Et pour arriver à admettre ça, il faut cesser de vous servir de votre volonté. La volonté, c'est quelque chose d'important dans notre être, mais là, c'est quelque chose de spirituel. Et la volonté, c'est quelque chose qui est tellement fluctuant. Je m'explique. Pour agir spirituellement, vous devez imaginer la fin de ce que vous souhaitez. Vous devez imaginer la libération que vous désirez. Jésus dit clairement que si vous croyez que ce que vous avez demandé ou ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Mais on ne peut pas penser une chose, demander une chose, sans imaginer. Si vous ne pouvez pas penser qu'une chose est déjà arrivée, si vous ne l'imaginez pas. L'imagination, c'est Dieu qui l'a créée, c'est pas le diable qui a créé l'imagination. Si vous vous servez mal de votre imagination, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que vous êtes mal instruit ou vous n'êtes pas maître de vous-même. Mais c'est quand même bizarre pour un chrétien, parce que le Saint-Esprit vous rend maître de vous. Vous devez être maître de votre imagination. Dieu nous a créés avec le pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'est un pouvoir. À quoi sert l'imagination? Aucun de vous ne peut nier que c'est Dieu qui nous a donné l'imagination. Ne laissez pas votre intellect intervenir dans les affaires spirituelles. Persistez à maintenir une foi ferme, simple, une foi d'enfant. La foi qui produit des miracles. Je me rappelle Violette et Raphaël. Ils avaient une foi simple, ils ne se cassaient pas la tête. Et ils ont eu une vie magnifique et ils ont eu une fin ils sont partis avec le Seigneur, et voilà, c'est bien. Tout est bien. Imaginez comment ça sera quand vous serez libre des attaques qui sont les vôtres aujourd'hui, des menteurs qui vous embêtent, du mensonge. Imaginez comment ça sera bien quand vous serez débarrassé de tout ça. C'est ça, c'est à ça que doit servir l'imagination. C'est pas l'imagination ne doit pas servir à vous imaginer, oh mais ça pourrait être pire, qu'est-ce qui va m'arriver, ça va être épouvantable, il va dire ci, il va dire ça, il va faire ci, il va faire ça, puis ça va être la cata. Non, non, n'imaginez pas ça. Imaginez le bien. Regardez à Jésus-Christ comment il faisait. Ne vous laissez pas hypnotiser par un adversaire qui est déjà vaincu. Pourquoi se laisser hypnotiser par un adversaire qui est déjà vaincu? Imaginez-vous que vous êtes débarrassé de la maladie qui vous tourmente. Imaginez-vous, j'ai vu, vous savez, sur Facebook, ils nous mettent des souvenirs. Alors il y a 4 ans, j'avais mis une petite vidéo où je disais, je sors à l'heure actuelle de chez mon oncologue qui vient de m'avertir, qui vient de me dire que je suis guéri, délivré de ce cancer. Voilà, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Imaginez, on était tellement joyeux avec Michou, on n'a pas attendu, on est rentré dans la voiture, on a téléphoné à tout le monde, on était dans la joie. Mais avant ça déjà, j'imaginais comment ça serait le jour où on me dirait, voilà, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Il faut imaginer à l'avance. Il faut maîtriser votre volonté, votre intellect qui vous dit « Non, mais ça a l'air foutu, ça ne va pas s'arranger. » Non, il faut maîtriser ça. Et il faut imaginer le meilleur. Jésus est venu pour ça, pour nous débarrasser de nos maladies. Alors, imaginez-vous sans votre problème. C'est sans ces casse-pieds qui essayent de vous miner la vie. Imaginez qu'ils sont neutralisés, qu'ils ne peuvent plus vous miner la vie. Ne réfléchissez pas, mais comment Dieu va faire? Ça ne sert à rien de réfléchir comme ça. Votre intellect ne sert à rien. Laissez Dieu faire. Et réjouissez-vous à l'avance, parce que Dieu s'en occupe de ces casse-pieds qui vous minent la vie. Jésus est venu pour ça, pour être notre bon berger et pour nous protéger contre les casse-pieds. Bon, la Bible ne dit pas casse-pieds, elle dit les loups. Jésus est le bon berger qui est venu vous délivrer des loups. Avoir la foi, c'est être dans la détente, dans le repos, dans le vrai Shabbat. Tous les vendredis, maintenant, je vous donne des études sur le Shabbat, sur le repos. Parce que l'apôtre Paul, enfin je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, eh bien il parle au début de sa lettre, il parle particulièrement de cela, le repos. Eh bien la foi, entrer dans la foi, c'est entrer dans le repos. Jésus est le maître, il est le maître le plus sage de tous, il est le maître le plus efficace de tous, il y a des maîtres qui pensent, il y a des gens qui sont formidables et tout, mais Jésus c'est le best, c'est le meilleur. Il a les moyens de vous guérir, il a les moyens d'assainir vos affaires. Alors, décrétez la santé, décrétez la réussite, Jésus l'établira en vous et dans vos bien-aimés. Alors, la clé, c'est la détente. La clé, c'est la détente. Ne vous préoccupez pas des détails ni des moyens. Quand je dis ne vous préoccupez pas, se préoccuper, ça veut dire s'occuper à l'avance. C'est inutile de s'occuper à l'avance de comment Dieu va faire. C'est inutile. Nous avons la foi pour avoir des miracles et on ne peut pas savoir comment Dieu va faire pour faire des miracles. Nous, pendant à peu près 3 ans, on allait dans un petit village à côté Et on passait devant une maison qui était en construction. Et on disait, oh là là, ça devient joli, cette vieille grange pourrie, ils sont en train d'en faire quelque chose de beau. Mais c'est tout, on restait là comme ça. Et maintenant, on est dedans, on vit, c'est à nous, on vit dedans. Est-ce que vous auriez pu imaginer ça? Non, on n'a pas imaginé. On cherchait à gauche, à droite, une maison et tout. Mais Dieu, il rigolait de nous voir nous déplacer pour aller visiter des maisons. Il savait que c'était celle-là. En nous, simplement, on trouvait magnifique, on trouvait très beau. Imaginez, vous méritez le meilleur. Imaginez le meilleur. Ne pensez qu'au résultat final. Cultivez le sentiment de la solution heureuse. Par exemple, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes sorti d'une grave maladie. Ça va créer quoi? Ça va créer des émotions bonnes en vous. Parce que le truc des émotions, ça c'est aussi un truc de Dieu. Dieu nous a créés avec des émotions. Et c'est à nous de les gérer. Comme on gère notre santé mentale, notre santé physique, ça va créer des bonnes émotions en vous, et nous avons besoin d'avoir des bonnes émotions. L'adversaire sait ça, il sait ça. Et c'est pourquoi il s'ingénie à vous faire avoir de mauvaises émotions, de tristesse, de lassitude, d'angoisse. Les mauvaises émotions sont mauvaises pour votre foi, et votre foi à eux aussi, mauvais pour votre morale, mauvais pour votre corps, les mauvaises émotions, c'est mauvais pour tout. Alors, ne cultivez pas des mauvaises émotions. En fait, le secret de la foi, c'est qu'il faut que votre idée, votre pensée, votre imagination soit ressentie par vous comme étant déjà accomplie. Jésus sur la croix dit « Tout est accompli ». Pour Dieu, le temps n'existe pas. Nous, on est dans le temps. Ça paraît des fois long, mais pendant le temps qui peut paraître long, eh bien, exercez-vous à imaginer le meilleur, l'issue la meilleure. La foi, c'est croire que ce que vous voulez est déjà accompli, ça a déjà été accompli sur la croix, c'est déjà fait. C'est pas dans l'avenir, mais c'est comme s'accomplissant dans le présent. Mais tout est accompli et maintenant nous voyons l'accomplissement se dérouler devant nous comme une route. Quand on roule la nuit, on voit pas, nous quand on sort d'ici et puis qu'on veut aller dans la ville, il y a des, je sais pas combien, je crois une quarantaine de tournants. Rachel, elle disait, qu'est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne beaucoup, et on ne voit pas la ville, et puis il fait nuit, mais si on a les phares, eh bien on voit 15-20 mètres plus loin, ça suffit pour pouvoir rouler, pour pouvoir aller à la ville. Eh bien c'est la même chose, les choses qui vont arriver, imaginez, vous allez y arriver, aux meilleures choses que vous voulez, elles sont comme s'accomplissant dans le présent, jour après jour, pas après pas. La foi, c'est une certitude. C'est pas une idée vague. Je vais lire dans Hébreux, chapitre 11. Vous connaissez tout ce texte. Puis on va y venir bientôt, puisqu'on étudie la lettre aux Hébreux. Voilà ce qu'il dit au verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Il faut donc que dans votre esprit, dans votre imagination, dans votre idée de ce que vous voulez, il faut que ça soit bien défini. Il ne faut pas que ça soit vague. On ne peut pas avoir une ferme assurance vague. Nous, quand on a décidé d'acheter ici, dans le sud-ouest, on a fait la liste de ce qu'on voulait. Et il faut faire des choses claires, nettes, et les imaginer, y penser. Il faut que vous preniez des décisions, il faut que vous preniez une décision nette. Je prends la décision nette de croire Jésus qui a la solution à mon problème. Je prends donc la décision nette de ne pas tenir compte de l'adversaire. Jésus lui a déjà réglé son compte. Jésus lui a déjà réglé son compte. Et quand je fais ça, je démontre par mon attitude que je suis un croyant. Être un croyant, c'est pas seulement croire dans l'existence de Jésus, c'est croire tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a fait. Quand je dis que nous ne devons pas admettre l'adversaire, ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, on n'est pas dans le déni, on n'est pas... je sais pas, il y a une secte comme ça, je ne me rappelle plus le nom, ils disent le mal n'existe pas, tout ça. Ils se gourrent un peu, ils vont un peu loin là-dedans. C'est pas tout à fait ça. Nous devons considérer le problème et accepter la solution que seul Jésus connaît. On dit toujours que ta volonté soit faite, mais nous savons que sa volonté est bonne. Donc on peut imaginer une bonne solution. Se détendre en ayant, en cultivant la conviction profonde de l'accomplissement de la victoire. Se détendre. Et ne pas affaiblir notre prière, ni notre position ferme, en disant des choses dans le genre « Oh, je voudrais bien être guéri, oh, si seulement, oh, j'espère pouvoir me sortir de ce labyrinthe de problèmes. » Là, quand vous dites ça, vous affaiblissez votre assurance. Soyez le seul maître à bord après Dieu. Le diable est un adversaire vaincu. Les gens sont tout aussi faibles que vous. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Il n'y a que Dieu seul qui sait, et vous, avec Dieu. En vous servant de ce qu'il vous a donné, votre imagination. Votre volonté vous en servit pour d'autres choses. Mais pas pour... Jésus dit, tout est accompli. Ne dites pas le contraire. Ne dites pas quelque chose qui ressemble au contraire. Si vous dites, Jésus va me guérir, ça ressemble à la vérité, mais ça n'est pas la vérité. C'est comme le champagne et le Canada Dry. Ça ressemble. Moi, je préfère le champagne. Surtout le ruinard, si jamais vous voulez m'en offrir. Si vous dites, Jésus va me guérir, non, c'est faux. C'est Jésus m'a guéri. Et maintenant, je m'imagine comment ça va être bien, comment ça va être bonnard, comme on dit en Suisse, quand je serai véritablement en possession de la guérison qu'il a accomplie sur la croix et qui devient une réalité dans le temps, parce qu'il y a le temps, on joue dans le temps. Quand on se trouve dans une circonstance, dans un événement difficile, il y a toujours un conflit entre l'imagination et la volonté. Et dans ce conflit, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Toujours. Si vous imaginez le pire, c'est le pire qui va vous arriver. Parce que l'imagination, elle est très liée à la foi. Croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. On ne peut pas croire qu'on a reçu une chose sans l'imaginer. L'image dominante, c'est ce qui vous impressionne le plus. L'image du pire ou du meilleur qui pourrait vous arriver, c'est ça qui conduit votre foi et il en sera fait comme vous croyez, comme vous pensez, comme vous imaginez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous imaginez le pire, c'est le pire qui va vous arriver. Ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce n'est pas suffisant pour obtenir ce que vous voulez. Parce que nos efforts mentaux nous frustrent invariablement eux-mêmes. Ils se sapent eux-mêmes. Et vous obtenez souvent le contraire de ce que vous voulez parce que votre volonté, elle est sapée par le découragement, par des choses que vous voyez, que vous entendez, qui vous impressionnent. La foi est une ferme assurance, mais la volonté peut avoir, pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance, pour avoir le succès, c'est pas stable la volonté, parce qu'elle est sujette aux émotions, elle est influencée par les émotions. C'est terrible, hein ? On est complexe, c'est comme un moteur de voiture. Moi, là, j'ai acheté une voiture il y a un mois, j'ai encore pas soulevé le capot, ça me décourage, c'est tellement compliqué, je regarde pas, je veux même pas savoir. Eh bien, notre être intérieur, c'est même encore plus complexe qu'un moteur de voiture. Par contre, c'est bien d'aller étudier comment ça fonctionne, parce que ça, c'est... Comment voulez-vous être le maître de votre vie après Dieu si vous ne connaissez pas comment ça marche ? Alors vous faites des efforts pour y arriver, même prier c'est un effort, vous jeûnez pour y arriver, vous vous servez de toute la force de votre volonté pour mettre les choses en place pour que ça arrive le mieux possible, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que votre erreur elle est dans vos efforts. La foi est une ferme assurance qui vous repose. Vous avez un problème, par exemple, vous avez perdu un truc, vous avez perdu un bout de papier, une facture, vous avez perdu des clés, hein, ça arrive souvent. Des fois on perd notre téléphone, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Tiens, tu ne voudrais pas m'appeler pour que j'entende mon téléphone sonner, je ne sais pas où je l'ai mis. Ça vous arrive jamais ça? Vous avez égaré quelque chose, vous avez oublié une chose dont vous avez besoin. Oh, faut encore que je retourne, j'ai oublié. Vous êtes en plein examen, et puis il vous semble que votre cerveau est vide, vous ne vous rappelez de plus rien. Pourtant vous avez étudié, mais le stress, tout ça, ça vous énerve. Vous êtes... Et puis, alors vous faites des efforts pour vous souvenir. Où vous avez perdu la chose que vous avez perdue, que vous cherchez, et vous suez en cherchant à vous souvenir ce dont vous avez besoin, et vous faites appel à votre volonté pour y arriver, et les réponses, elles semblent vous fuir. Plus vous cherchez, plus ça vous fuit, ça vous arrive jamais, par exemple. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Sinon, il y a que moi, alors c'est pas possible. Non, je connais tout le monde, ça arrive à tout le monde. Vous arrivez dans une pièce, vous dites, je suis venu chercher quelque chose, mais dis donc, je ne me rappelle plus quoi. Ça vous est jamais arrivé? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ma mère, elle disait, c'est simple. Tu retournes là où tu étais avant. Et puis tu fais autre chose. Tu penses à autre chose, ça va revenir tout seul. Ou quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, puis d'un coup, on dit, oh, ben, ça m'échappe, je ne me rappelle plus ce que je voulais te dire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans des moments comme ça? Ne faites aucun effort. Lâchez prise, pensez à autre chose. Laissez votre tension mentale se relâcher. Et la réponse, elle va sournoisement se présenter à votre esprit. Ah oui, ça y est, je me souviens. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'arrive au moins une fois ou deux par semaine. La tension mentale... Elle est souvent un obstacle à la réponse à nos prières. La tension mentale. Alors l'explication, elle est simple. Se servir de vos forces mentales, c'est préjuger d'une opposition. Quand votre esprit se concentre sur les moyens de résoudre ou de surmonter votre problème, votre esprit ne s'occupe que de l'obstacle, que de l'adversité, que de l'adversaire. C'est pourquoi je dis n'admettez pas l'adversaire. Il existe, c'est vrai, mais il y a des moyens. Vous avez tout en Jésus-Christ, il a déjà vaincu cet adversaire, il a déjà la solution, et il se marre, il rigole quand on cherchait les maisons. On en a visité 30, même plus peut-être, elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Mais celle où on est, c'est la plus belle. Il rigolait, Dieu, de nous voir faire tous ces déplacements avec tous ces messieurs, ces dames des agences et tout. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous lire un verset. Vous le connaissez tous. C'est avec ce verset que je me suis converti. Matthieu 18, 19. Je vous dis encore, c'est Jésus qui parle, hein, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelles sont ces deux choses dont Jésus parle? Alors évidemment, bien sûr, ce sont des croyants. Jésus nous engage à nous mettre à deux ou trois pour prier, pour demander une chose quelconque, et ça nous sera accordé par notre Père. Ce sont les croyants qui doivent s'unir dans la prière. Mais pas que. Ça ne veut pas dire que ça. Ce que Jésus dit a des profondeurs d'intelligence qu'il faut sonder. Ce que Jésus veut vous dire là, c'est qu'il s'agit surtout de l'union harmonieuse de votre esprit, un, avec le Saint-Esprit, deux, qui vit en vous. Là où deux sont assemblés en mon nom. Et le troisième, c'est votre volonté soumise à la volonté de Dieu. Et pourquoi il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, ça leur sera accordé par mon Père. Car là où deux ou trois sont assemblés, alors là il dit deux ou trois. Parce que la volonté, c'est encore pas, c'est pas si important que ça. Ce qui est plus important, c'est que votre esprit soit en accord avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous fassiez confiance au Saint-Esprit pour toute chose. En harmonie avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire en harmonie avec les Écritures. Je suis en harmonie avec les Écritures, ma conscience ne m'accuse pas parce que je sais que je suis pardonné de tous mes péchés, je ne mérite pas le meilleur, mais Dieu va me donner le meilleur parce qu'il m'aime. Votre esprit humain est très complexe et l'imagination y tient une place très importante. Ce sont vos pensées. Et vos pensées doivent être fixées sur la pensée du Saint-Esprit qui est en vous et qui a dicté les Saintes Écritures. Là alors, il y a un accord. Là où deux ou trois se mettent en accord. Et votre volonté doit accepter la volonté de Dieu. Et imaginez qu'elle se fera, la volonté de Dieu. Et qu'elle est toujours bonne pour vous. Alors on va me dire, mais des fois ça finit mal. Oui, des fois ça finit mal. On croit que ça finit mal. Mais c'est pas mal. C'était la volonté de Dieu que ça finisse comme ça. Et c'est très bien. Un jour on se rend compte. Oui ou non? Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors là, quand on est dans une situation, voilà, puis ça finit par la mort de quelqu'un, ou ça finit par... Alors on se dit, oh là 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 là, alors Dieu, alors je croyais que tu avais porté toutes nos maladies à la croix, mais il n'a jamais dit qu'on mourrait jamais. Je prends un cas extrême. Il faut que votre volonté soit en accord avec la volonté de Dieu. Si tu veux, voilà, que ta volonté soit faite. Il doit y avoir accord, une harmonie entre vos désirs et votre imagination. Mais n'imaginez pas que vous allez mourir ou que vos bien-aimés vont mourir. Mais s'ils doivent mourir, que la volonté de Dieu soit faite. Que votre volonté soit en accord avec la volonté de Dieu, que vous ne soyez pas révolté. Je vais vous donner un dernier conseil ce matin. Alors là, vous allez me trouver charnel, mais charnel, terrible. Mais c'est mon expérience. Les meilleurs moments pour imprégner votre vie par la foi, c'est le moment où vous êtes étendu sur votre canapé ou dans votre lit et que vous commencez à vous endormir. C'est le meilleur moment. C'est quand vous êtes en somnolence, que votre agitation charnelle est au plus bas et que votre esprit est le plus en contact avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que votre chair pchit, comme disait Chirac. Alors au moment où vous vous détendez, vous entrez dans le repos, c'est pourquoi je dis, vous allongez sur votre canapé, là dans le midi, il y a une tradition merveilleuse, c'est la sieste. Hein? Je crois que c'est... Oh, c'est merveilleux. Je détestais ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, et j'ai trouvé une nouvelle position sur mon canapé. Et je vous expliquerai ça une autre fois. Oh, je suis encore mieux, bien, super qu'avant. Il faut toujours trouver un truc pour être super détendu. Ben, c'est là. Et je pense aux choses de Dieu. Je pense à Jésus, comment il faisait. Je pense aux hommes de foi. Je pense aux femmes de foi, et puis voilà que je rentre en harmonie avec le Saint-Esprit de Dieu quand je suis détendu. Et puis je ressens la joie de l'accomplissement. Votre esprit sera au top, au meilleur pour une communion sans parasite avec le Saint-Esprit quand vous serez en somnolence. Vous allez me dire, Michel, là, tu dérailles. Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Moi, j'expérimente et je vis des belles choses. J'espère que vous m'avez bien compris. Par ce message, j'essaye de vous faire part de mon expérience de vie spirituelle. Il y en a qui ne comprennent pas. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais fait une prédication il y a longtemps, on était encore au château, sur le fait de marcher, de respirer, de sentir, de regarder, d'observer les choses. Vous vous rappelez de ça? Et il y en avait qui n'avaient rien compris. Oh là, c'est charnel et tout. Non, mais il y en a, ils sont bouchés, ils ne comprennent pas. Mais j'espère que vous avez compris. Écrivez-moi si vous m'avez compris. C'est un travail de tous les jours. C'est jamais fini. La sieste, c'est tous les jours. Le repos, le soir, on se moulisse tous les jours. Hein? On a sans cesse des progrès à faire et on a des moments privilégiés. C'est le moment où on entre dans la somnolence, on entre dans le repos physique aussi. On a des progrès à faire dans ce domaine, comme dans tous les domaines d'ailleurs, on a des progrès à faire dans notre existence terrestre. Je regardais une interview de Sylvie Vartan et le présentateur disait « C'est drôle, vous avez maintenant 50 ans de carrière ». Et les gens disent, oh, elle est courageuse, elle est travailleuse, et elle fait des progrès. Elle a rigolé, elle a dit, oui, je fais des progrès. C'est un petit peu ridicule, mais c'est vrai que quelqu'un qui pense, bon, ben, j'ai pas besoin de progrès, j'ai pas besoin de faire de progrès, c'est un orgueilleux. On a besoin de toujours se rendre compte qu'on peut progresser. Et voilà le pourquoi des prédications, voilà le pourquoi des enseignements. C'est pour que nous puissions progresser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et que vous puissiez sortir de vos problèmes avec les conseils que je vous ai donnés de la part du Seigneur aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.